Et aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur, peut-être d'insister, vous allez le dire, mais de revenir sur une de ces étapes. Une étape que j'avais présentée à l'époque comme l'étape de base, l'étape peut-être la plus essentielle, même si elle ne se situe qu'en deuxième position. C'est lire sa Bible et prier régulièrement. Et si j'avais à cœur, vraiment, et que le Seigneur du moins m'a mis à cœur d'insister sur cette étape, c'est parce que j'ai bien conscience ce matin, et je pense que vous ne me contredirez pas, que peu importe où on en est dans notre vie aujourd'hui avec Christ, qu'on en est au tout début, un petit bébé dans la foi, ou qu'on ait quelqu'un un peu plus d'expérience, eh bien c'est une étape qui est difficile de tenir dans la durée. C'est difficile de lire sa Bible tous les jours, c'est difficile de prier tous les jours. Et comme le disait papa la semaine dernière, c'est d'autant plus difficile parfois quand on en a le plus besoin, c'est-à-dire quand on est dans une période un peu plus dans le creux. Et ce matin, j'avais vraiment donc à cœur de revenir là-dessus parce que je crois personnellement et profondément, j'en suis en tout cas persuadé, que si on persévère sur cette étape-là, alors nous verrons des fruits incroyables arriver dans notre vie. Et je vous avais témoigné rapidement de ça il y a un mois. Je vous avais dit, on l'a expérimenté avec mon épouse. J'avais mis un petit peu de suspense en disant, je vous le raconterai plus tard. Je vais vous le raconter ce matin. Un petit témoignage pour commencer. Il y a donc début décembre, on met en vente notre maison. Enfin, fin novembre même. On met en vente notre maison et les prévisions humaines n'étaient pas très bonnes. Pas que notre maison n'allait pas se vendre. Ils disaient, si, ça va se vendre. Mais vous savez, avec le confinement, etc., le marché, il est mou, c'est mou. Attendez avant janvier. Sauf que nous, on avait un projet à cœur et on pense que le Seigneur, en tout cas, nous avait conduits dans ce projet et il fallait que notre maison soit vendue avant la fin de l'année, qu'on trouve des acheteurs. Donc on n'était pas bien, on a essayé de mettre toutes nos forces pour essayer de trouver des acheteurs, mais vous savez comment ça se passe dans ce type de situation, ça ne dépend vraiment pas que de nous. Et du coup, face à ces prévisions plutôt mauvaises, on s'est dit avec Pauline, on s'est dit un dimanche soir, on n'était pas bien, on avait lutté seul, on a dit « mais pourquoi ne pas remettre ça à Dieu ?» Pourquoi ne pas mettre notre foi en action et finalement, si ça ne dépend plus que de nous, lui peut-être qui est là-haut pourra faire en sorte que cette maison soit vendue. Après tout, si c'est son projet, ça sera ainsi que ça va se passer. Et donc on a dit, cette semaine, et on ne dit pas ça pour se glorifier parce qu'on n'en avait parlé à personne, on dit cette semaine, on va vraiment jeûner et prier pour ça. Alors je ne vous dis pas, on a commencé lundi on priait. Hein. Seigneur, amène-nous des acheteurs qui viennent ce soir. Le soir même, pas d'acheteurs, je ne vous le cache pas. Puis le lendemain, on persévère. Encore, vas-y Seigneur. Et puis, au fur et à mesure, le Seigneur a travaillé notre cœur. Ce qui fait que cette semaine de jeûne et de prière qui devait juste être que ça et simplement pour notre maison, elle s'est transformée pour prier pour notre propre vie, nos propres enfants et autre chose que la maison. Et le Seigneur nous invitait même à dire, on avait vraiment à cœur, plongez-vous aussi dans ma Bible. Ne vous contentez pas simplement de prier. On est tombé sur des versets clés qui nous ont bouleversés. À un tel point qu'on s'est mis on a continué, on est allé plus loin, on est allé au petit groupe. C'est Pauline qui avait fait le petit groupe de Simon et Nadège le mercredi. D'ailleurs, ils avaient prié pour la maison aussi, entre autres. Le vendredi, on va, et c'était en visio aussi celui de Michel et Josiane, c'était moi, et véridique. Ça s'est terminé à 20h, ou un peu plus tard, je ne sais plus. On a raccroché, je descends, Pauline me dit, incroyable, il y a deux personnes qui veulent visiter la maison ce week-end. Amen, merci Seigneur. On ne va pas s'emballer, on s'est dit, si jamais. Le dimanche soir, elle était vendue. Gloire à Dieu. Je vous dis, quand on persévère dans la prière, dans la lecture de la parole, quand on met notre foi en action, alors, et même quand c'est difficile, Dieu agit. Donc vous l'aurez compris ce matin, je vais revenir sur cette étape numéro 2 parce que si on persévère, ça tient le coup. Et le Seigneur m'a montré à travers cette expérience et a montré à mon épouse que même après plusieurs années de conversion, nous avons tous, et je ne veux pas faire de mon cas une généralité, mais je pense en tout cas que nous avons encore tous beaucoup de choses à apprendre sur notre relation avec lui, et notamment à travers la lecture de la parole et la prière. Et donc, Psaume 119, 9 dit « Comment le jeune homme ou la jeune femme, Dominique, je veux t'inclure aussi dedans, le jeune adulte, prenons d'une façon générale, rendra-t-il pur son sentier en observant ce qui est écrit dans ta parole ? » Ce matin, le Seigneur vraiment avait à cœur, et je pense, cette question pour vous, pour moi, pour nous tous, et toi, que mets-tu concrètement en place dans ta vie pour observer ce qui est écrit dans la parole de Dieu ? Et vous l'aurez compris, ce matin, je vais vraiment me consacrer à une chose, et ça va être un enseignement là-dessus, sur la Bible. Comment observer ce qui est écrit dedans, comment lire sa Bible. Papa s'occupera la semaine prochaine de comment, encore au-dessus, comment prier. On voulait vraiment des enseignements concrets, pratiques, que l'on peut mettre en action dès ce soir, dès demain dans notre vie pour voir des choses bouger. Amen. Et c'est vraiment en tout cas le but ici. Le titre de ce matin sera donc dans le même sens, « Sept clés pour se nourrir de la Bible ». Alors au début, je veux dire, ce titre, il a beaucoup changé en un mois. Au début, c'était « Sept clés », ça c'est resté, « Sept », en plus c'est un beau chiffre. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi le prof de maths, je l'aime bien ce chiffre-là. « Sept clés pour lire la Bible », c'était au début, puis je me suis dit en travaillant un peu « lire », c'est un peu réducteur, donc je me suis dit « Sept clés pour se nourrir de la Bible », je trouvais que ça ne sonnait pas très bien, donc j'ai dit « Sept clés pour se nourrir de la parole de Dieu », et puis en échangeant avec chacun d'entre vous, j'ai vu que la parole de Dieu, ça a une signification différente. Certains vont dire bah, « c'est la Bible », d'autres vont dire juste le Nouveau Testament, d'autres vont dire « c'est aussi quand Dieu parle, prophétise ». Donc, je suis resté sur cette clé pour se nourrir de la Bible, mais vous m'excuserez à l'avance si de temps en temps je dis « se nourrir de la parole de Dieu ». Je ne sais pas, c'est peut-être un petit tic de langage. Je parlerai bien dans ce cas-là de la Bible en entier. Ça marche ? Et pour commencer, et avant de détailler ces sept clés, j'avais vraiment envie de trouver justement dans la Bible un passage où Jésus nous montre comment lire la Bible, comment se nourrir de la parole de Dieu. Et ce, autant pour la prière, désolé papa, je ne sais pas si tu vas partir sur ça dans deux semaines, mais Jésus montre clairement comment prier. Il y a un moment, Jésus enseigne à ses disciples le Notre Père, voilà comment il faut prier. Autant on n'a pas un passage aussi concret dans les évangiles du moins où Jésus montre comment lire la Bible. Du moins c'est ce que je pensais au début, et puis j'ai un peu potassé, j'ai un peu regardé, et je me suis dit mais que fait Jésus au tout début de son ministère ? Une des premières choses qu'il fait, et on retrouve dans Luc 4, versets 14 à 30, c'est qu'il va dans une synagogue, il prend la Torah et il la lit. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a des choses à retirer là-dessus. Et en effet, il y a beaucoup de choses à retirer. Jésus nous montre à travers ce passage comment se nourrir de la Bible, comment se nourrir de la parole de Dieu, comment lire la Bible. Alors c'est une histoire que vous connaissez peut-être ou que vous découvrez. Je vous propose de la lire ensemble et elle nous servira de fil rouge ensuite. Donc, Luc 4, versets 14 à 30. « Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. » Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Parfait. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, « N'est-il pas le fils de Joseph ?» Mais il leur dit, « Sûrement vous allez me dire ce dicton, médecin, guéris-toi toi-même, et me dire, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capernaum, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur la terre. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élie, il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. » Alors, beaucoup de choses à retenir de ce passage. On va essayer de se concentrer vraiment, rester sur le cadre de ce que je vous ai dit, donc, c'est-à-dire de la lecture, en tout cas ici, de comment apprendre de ce passage pour se nourrir de la Bible. Et le premier conseil qui ressortirait, en tout cas, de ce passage, pour nous ce matin, c'est que pour se nourrir de la parole de Dieu, je reste persuadé qu'il ne faut pas rester sur ses expériences passées. Je vous explique cela. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à lire ta Bible aujourd'hui que tu n'aimes pas ça ou que tu as déjà essayé de la lire, de t'y accrocher, mais que ça n'a pas marché, que ça ne marchera jamais et que ce n'est pas fait pour toi. Reprenons la situation ici de Jésus. Jésus se rend donc dans la synagogue. En face de lui, le jour du sabbat, on peut imaginer qu'au premier rang, il y avait les fidèles, ceux qui venaient là depuis longtemps, qui avaient déjà peut-être entendu parler de ce passage d'Ésaïe et qui pensaient l'avoir bien compris. On a même peut-être au fond ceux qui venaient là pour la première fois ou de temps en temps et qui venaient de découvrir ce passage. En face de lui, Jésus avait en tout cas un sacré panel de personnes totalement différentes dans la foi et pourtant son message à travers ce qu'il vient de lire est unique. Il dit qu'une seule chose, il dit que ce qu'il vient de lire, ce qui est écrit dans les Écritures, va s'accomplir aujourd'hui. Et je crois que ce matin, peu importe où nous en sommes aujourd'hui dans notre vie, et notamment vis-à-vis de la Bible, que nous la lisons régulièrement ou pas, ou que nous l'avons compris ou pas, Jésus veut nous dire ce matin que la Bible et ce qui est écrit dans la parole doit avoir un impact et peut encore en avoir un impact aujourd'hui, que vous l'ayez compris ou pas. D'ailleurs, c'est aussi à l'inverse, pas parce que tu as l'habitude de lire la parole, de la comprendre, que tu penses avoir tout saisi et qu'elle n'a plus rien à te révéler. En disant ça, ce matin, vous l'aurez compris, j'ai envie de dire que nous sommes tous concernés. Et j'ai envie que nous soyons tous concernés. Comme je le dis ici, un peu comme chacune des personnes qui étaient présentes dans la synagogue au moment où Jésus leur a lu ce passage. Et c'est ce que j'ai bien aimé et ce qui va nous permettre de donner le conseil numéro 2. Si nous voulons bien nous nourrir de la Bible et de la parole de Dieu, il faut que nous prenions conscience que ce n'est pas un livre comme un autre. C'est vraiment autant le premier, c'était, je vais revenir, vous voyez, je mets des petits dessins, autant c'est la première pièce du puzzle, autant là, ici, c'est vraiment le conseil clé qui vous permettra de viser dans le mille. Comme tous les livres, la Bible a une couverture, un début, une fin, des chapitres, mais il n'y a pas d'obligation de la lire comme tous les autres livres. Si j'achète le livre de Damien, qui va devenir un best-seller, je le disais ce matin, j'achète le livre de Damien, il a aussi une couverture, des chapitres, un début, une fin. Logiquement, normalement, je dois le lire dans la chronologie. Je dois commencer par le début, finir par la fin. Même si tu me racontais, Aurélie n'est pas là, on peut le dire, c'est son père, je crois. Il aime bien lire le chapitre à la fin et il reprend le début. Comme quoi, il n'y a pas de règle finalement et que ça dépend des gens. Mais ici, d'autant plus, la Bible est un livre dont nous ne sommes pas obligés de lire du début à la fin chronologiquement. Surtout si c'est difficile de la lire. Allons dans un premier temps vers des livres accessibles, allons vers les évangiles, des histoires connues et petit à petit amenons-nous vers des livres peut-être un peu plus difficiles, corsés. Et allons-y par étapes, c'est vraiment très important. Ici, c'est ce que fait Jésus finalement dans ce passage. Est-ce qu'il prend la Genèse ? Alors il est dans la Torah, d'accord ? La Bible n'était pas complète comme aujourd'hui. Et dans la Torah, est-ce qu'il prend la Genèse ? Est-ce qu'il commence au début ? Non. Est-ce qu'il prend la fin ? Non. Il est finalement dans Ésaïe, un livre au milieu. Donc Jésus nous montre ici qu'on peut se lire la Bible comme ça, en tout cas. Deuxième chose super importante aussi par rapport à ce conseil-là, ceux qui ont écrit la Bible, et nous le croyons, ont été inspirés par Dieu. C'est donc Dieu qui parle à travers eux. Par les mots qu'elle contient, la Bible peut donc avoir une influence directe sur ta propre vie. Ésaïe 55, 11 dit « Ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir fait son effet. » Et c'est ce qui va vous motiver. Si ce matin je vous dis ce que vous allez lire cette semaine va changer votre vie, est-ce que ça ne va pas vous motiver à le lire ? Et pas changer votre vie négativement, changer votre vie positivement. C'est ce que dit Jésus ici dans ce passage. Il dit « ça va s'accomplir aujourd'hui », mais il ne dit pas « ça va être du malheur ». Non, il est venu annoncer une année de bénédiction. C'est bien ce qui est noté ici dans le passage. Et Jésus veut dire à travers ça, à nous aussi ce matin, que si nous nous plongeons dans notre Bible, ce qui va se passer cette semaine et dans les mois à venir, c'est des choses positives. Et ça va changer positivement votre vie. Amen. Troisième conseil. Petit conseil pratique, peut-être ici, mais encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est aussi Jésus qui nous le montre. N'ayons pas peur pour nous nourrir correctement de la Bible, de ne pas lire des gros pavés afin de privilégier la réflexion. Alors ça va peut-être changer ce que vous avez appris à apprendre à l'école. J'espère que mes collègues de français ne m'écoutent pas, ils vont me taper sur les doigts. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez à l'école, on avait toujours à chaque vacances un livre à lire. Et comme on était des bons élèves, ce qu'on faisait, c'est que plutôt que lire un petit peu tous les jours, on attendait le dernier week-end et on se disait « je vais me le faire en deux jours celui-là et je vais me lire tous des chapitres ». Et c'était une course contre la montre. On était à fond. Sauf qu'en fait, on passait totalement peut-être à côté de ce qu'il fallait faire parce qu'on n'en comprenait souvent que la moitié. C'était juste lire des mots. Et bien ici, c'est un peu pareil. Ici, pour lire la Bible, se nourrir correctement, je pense qu'il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Que fait Jésus ici? Il sort, donc on lui donne le livre d'Ésaïe. Il lit finalement, quand on regarde un peu plus près, Ésaïe 61, versets 1 à 2. Avec deux petits versets, ici, il a tenu toute la synagogue en haleine. Bon, après, elle s'est un peu rebellée. Mais il l'a tenue du moins en haleine. Et il avait un message à faire passer juste sur deux versets. Comme quoi c'est possible. Ici, en tout cas, mieux vaut privilégier la qualité que la quantité. Et surtout, dans un but, pour y réfléchir, méditer la parole de Dieu. C'est quoi? Eh bien, c'est lire, mais aussi se poser un tas de questions. Des questions peut-être même standards sur ce que nous venons de lire et qui nous permettra de saisir le sens et ce que Dieu veut nous montrer à travers ce que nous venons de lire. Les fameux « qui ?» Quoi, où, comment? Vous avez une fiche, c'est moi qui l'ai préparée, ça fait très prof, hein, je sais. Peut-être même trop prof. Je vous ai mis une petite fiche dessus et vous voyez notamment des petites questions. C'est un peu un petit conseil que je nous donne, mais encore une fois, ce n'est pas simplement Geoffrey qui vous le donne, c'est aussi Jésus à travers ce qu'il nous montre. Quand nous lisons un passage, n'ayons pas peur de nous poser quatre questions essentielles qui peut-être nous permettront de voir clairement ce que Jésus et ce que Dieu veut nous faire, veut nous apprendre à travers ce que nous lisons. Première question, qui parle? Et ici, c'est important parce que, et ça, ces questions-là, Jésus, alors, dans ce passage-là, il ne se les pose pas, les personnes dans la synagogue, parce que quand Jésus parle, je ne sais pas si vous avez remarqué, ensuite, il va s'asseoir, les gens, ils font « Waouh, c'est bien le fils de Joseph ». Limite, ils ne s'intéressent pas trop à ce qu'il a dit, ils sont plus impressionnés par la présence. Du coup, Jésus les pousse eux-mêmes à se poser des questions en répondant à ces quatre questions-là. Qui parle? Dans un premier temps, c'est important de savoir. Quand on lit ici, qui parle? Qui écrit? Ici, c'est Ésaïe, hein, dans ce passage-là. Ce n'est pas n'importe qui. Le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique. Donc, d'autant plus, un livre qui doit parler Jésus, après un livre qui parle. Dans quel contexte? J'ai passé rapidement, on pourrait revenir, mais on voit, Jésus ici dit, du temps d'Élie, du temps d'Élie, du temps d'Élie. Il leur remet tout le contexte de l'époque, comme si c'est super important de comprendre le contexte de l'époque. De quoi parle ce passage? Ça aussi, Jésus répond. Et quelle application puis-je en faire aujourd'hui pour ma propre vie? Juste ces quatre questions-là, si nous lisons, quand nous lisons notre Bible, du moins le passage, si nous y répondons, je suis sûr que déjà, ça pourra changer notre vision et notre façon de la voir et de la comprendre. En tout cas, c'est Jésus ici qui le montre. Voilà, j'ai mis la fiche « Question pour un chrétien bien nourri ». J'ai trouvé un petit titre. Ça sonne bien, Dominique? Merci. Ça nous mène au conseil numéro 4. Conseil numéro 4 pour bien se nourrir de la parole de Dieu, de la Bible, prendre un temps régulier et quotidien pour se nourrir de celle-ci. C'est vraiment le conseil, je pense, essentiel qui nous permettra de mettre la lumière sur tout ce qu'elle peut nous apporter. Je m'explique. De la même manière qu'un homme doit se nourrir régulièrement pour ne pas tomber malade, même mourir, nourrissons-nous régulièrement de la parole. Alors, je vais oser ce matin. Peut-être que ça va changer vos habitudes, peut-être que vous allez dire c'est trop mathématique, mais faisons-le au moins une fois par jour. Peut-être 10-15 minutes, voyez Jésus ici sur ce passage, c'était pas une prêche d'une heure qu'il a fait, hein. 10-15 minutes. Faisons-le en tout cas dans cet état d'esprit-là. Et surtout, intégrons ce temps dans un temps de prière. Un temps où on prie peut-être avant. Vous dites, Seigneur, voilà, je vais lire ma Bible. J'ai du mal avec ça. Aide-moi vraiment à comprendre. Ou alors, Seigneur, j'ai déjà lu ce passage. Montre-moi, révèle-moi des choses nouvelles dedans. Lire, prier. Après aussi, Seigneur, que dans les jours qui viennent, je l'ai déjà fait ça et ça marche, je vous assure, dans les heures qui viennent, tu puisses me montrer que ce qui est écrit dans ta parole s'applique dans ma vie. Et ça marche. Ce n'est pas des paroles en l'air quand je dis ça. Je vous assure, y allez-y avec foi. Un temps calme aussi, comme on dit, parce que pour réfléchir, il faut un temps calme, sans être parasité et pour être surtout connecté au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous permettre aussi de comprendre ce que Dieu a à vous révéler. Et une fois de plus, ce conseil, il ne repose pas simplement sur Geoffrey qui vous dit ça, mais Jésus nous le montre ici. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il lit ce passage, il va s'asseoir. Il marque un premier temps de silence un peu. Pour amener, je pense, les gens à la réflexion. Il aurait pu leur dire, voilà, restez debout et dire, je vous fais derrière le détail de ce que je viens de dire. Non, il marque un premier temps. D'ailleurs, les gens sont là et disent, waouh, c'est magnifique, il a bien lu, il parle bien, c'est génial. Ensuite, il fait quand même, comme il voit qu'ils ne réagissent pas, il leur apporte la réflexion. Qu'est-ce qui se passe ? Émeute totale. Vous l'avez vu ? Émeute totale. Pourquoi il y a cette émeute ? Parce que les gens, au fond, n'ont pas compris le message de Jésus. Pourquoi ? Parce que, un, ils n'étaient pas connectés. Certainement, au Saint-Esprit, qui pouvait sonder leur cœur à ce moment-là. Et ensuite, il y a un deuxième temps où on voit un deuxième temps de pause, au moment où ils veulent précipiter Jésus. Que fait Jésus ? Il pourrait dire, oh là, c'est bon, non ? Il trace sa route. Sous-entendu, je vous laisse avec ça, mes amis. Réfléchissez-en. Vous ne l'avez pas su le faire maintenant, mais réfléchissez-en. En tout cas, c'est très important de prendre des temps comme ça, très scindés. J'ai mon ami David qui me disait cette semaine, oh, c'est vrai, pour lire la parole, il faut persévérer. Des fois, c'est difficile. Et moi, je ne vous le cache pas, oui, c'est difficile des moments dans ma vie. Qu'est-ce que je fais ? C'était tellement difficile à un moment dans ma vie que je le marque même sur mon agenda. Tous les jours, je marque sur mon agenda, lire ma Bible, prier. C'est aussi important qu'aller faire les courses, que de faire mes devoirs, que qu'aller au travail. Parce que si c'est noté sur votre agenda, vous êtes sûr que vous n'allez pas l'oublier. Et oui, il ne faut pas avoir peur, on est en dette entre nous. Des fois, c'est difficile, il ne faut pas avoir peur de le noter. Ça demande vraiment de la persévérance. On arrive au conseil numéro 5. Pour se nourrir de la Bible, de la parole de Dieu, il ne faut pas se limiter dans les supports, tant qu'ils sont fiables et vérifiés. À l'heure de l'ère technologique, ne nous bridons pas. Allons-y, profitez-en, mais soyons vigilants. Vous allez voir pourquoi. Première chose, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser. Nous pouvons très bien ouvrir notre Bible pour nous nourrir, mais nous ne nous fermons pas à d'autres supports, audio, enseignement, plan de lecture, pensée quotidienne pour également le faire. Alors peut-être que ça va hérisser des poils que je dis ça, peut-être que certains vont dire « Non, il n'y a que en lisant ma Bible que je peux me nourrir de la Bible. » Mais pour ça, j'en parlais avec un frère qui disait ça récemment. Il disait « Moi, je n'arrive pas à lire ma Bible, je n'arrive pas. » Et en fait, en discutant avec lui, je me rendais compte, et j'ai rassuré là-dessus, qu'il arrivait à se nourrir. C'est juste qu'il n'arrivait pas parce que voilà, lire déjà, ce n'était pas son truc. Et ça ne veut pas dire, comme je lui dis, qu'il n'arrivera jamais à le faire. Ça lui a enlevé un poids de culpabilité énorme. Mais je lui ai dit « Comment il faisait du temps de Jésus, à votre avis ? Est-ce que Gutenberg était né ? Est-ce que les Bibles étaient imprimées, du moins les Torahs étaient imprimées en plusieurs exemplaires ? Est-ce que chacun en avait un chez lui ? Non, comment ils faisaient pour se nourrir à l'époque ? Eh bien, ils allaient à la synagogue. Ils allaient à la synagogue et ils ne lisaient pas, ils écoutaient. Et ils écoutaient les enseignements et ils écoutaient la lecture. Donc n'ayez pas peur, vous n'aimez pas lire ? N'ayez pas peur, il y a des applications qui existent où on peut vous lire la Bible, où des gens vous lisent la Bible. Et des fois, ça c'est peut-être mon côté prof aussi, mais on a des intelligences différentes et certains vont être plus sensibles à quelqu'un qui va lire plutôt que de lire lui-même. N'ayons pas peur également donc de lire des enseignements, d'écouter des enseignements. Il y a des plans de lecture qui existent aussi à travers des applications. Et puis on a aussi des pensées quotidiennes, ce genre de bouquin aussi, hein, ou la pensée du jour. Ça d'ailleurs c'est marrant, je l'ai ressorti cette semaine, j'avais demandé à mes parents de me l'acheter, c'était il y a 10 ans. C'était une autre période de ma vie. J'avais du mal à plonger dans la parole et ça m'avait beaucoup aidé. Je me suis dit, tiens, cette semaine, je vais regarder, c'était jeudi, je l'ouvre, 11 février, je regarde, je dis, peut-être ça va me parler. Je lis le passage et en fait, ça a pile visé une situation qu'un frère vivait. Je lui ai envoyé tout de suite, il a été touché. Il m'a dit, ça m'a vraiment touché, merci, incroyable. Comme quoi, vous savez, Dieu peut aussi parler et à travers ce genre d'études. Pourtant, ça se base sur un verset, hein. C'est vraiment un verset qui l'a touché. Mais surtout, tant qu'ils sont vérifiés, et attention à ça, tous les moyens sont possibles, mais à terme, Dieu voudra nous faire tendre vers ce que j'appellerais la mentalité du prédicateur. Alors je vais m'expliquer sur ça. Tant qu'ils sont vérifiés, et attention à ça, parce que vous savez aujourd'hui, avec Internet, ce que j'ai dit, on n'a pas à se priver, mais il y a tout sur Internet. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui sur Internet, on peut tous se faire passer déjà pour un pasteur. Eh bien, si vous voyez des fois des choses que je peux voir, n'importe qui, même moi, je pourrais faire une petite vidéo, compte pasteur, Jojo le pasteur. Bon, déjà le titre, vous allez trouver ça bizarre. Mais j'envoie ma vidéo sur YouTube, je dis n'importe quoi, et puis ça se relaye, on dit « Regarde, mon frère, il y a un pasteur qui a partagé ça. » Oui, mais ce pasteur-là, on ne le connaît pas. N'importe qui peut se faire passer. Alors ça, c'est un peu mon côté aussi. À l'école, j'enseigne là-dessus, j'essaye par rapport aux médias, j'essaye d'apprendre à mes élèves, ça fait partie dans aussi de vérifier leurs sources. Vérifiez vos sources. C'est pour ça, vous le verrez sur la feuille, qu'on a mis quelques lien peut-être survérifié. Mais faites attention à ça. Même au début où je préparais les prédications, il y a 3-4 ans, j'utilisais pas mal Internet. Et quand je tapais un sujet, le premier site qui venait, véridique à chaque fois, c'était toujours le site des Témoins de Jéhovah. On va dire qu'on tape dessus parce que tu en as parlé la semaine dernière, mais c'est véridique. Alors je cliquais au début, je lisais, je dis c'est bizarre quand même ce qui est marqué. Et c'est seulement après que je voyais que j'étais sur le site des Témoins de Jéhovah. Comme quoi, vous voyez, on peut être influencé par tout et n'importe quoi, surtout si on ne vérifie pas. Mais surtout, c'est bien tous ces supports, ces choses-là, mais à un moment donné, je pense que Dieu voudra nous faire tendre vers la mentalité du prédicateur. Et ça, ce n'est pas une expression que j'ai inventée moi-même, mais que le frère dont je vous parlais juste avant m'a donné, qui disait qu'il avait du mal à lire la Bible, disait « moi, je n'ai pas la mentalité du prédicateur ». Et pourtant, j'aimerais bien l'avoir. Je dis « c'est quoi la mentalité du prédicateur ?» Il dit « la dernière fois, par exemple, avec mon épouse, on parlait de la jalousie. Et je voulais savoir ce que disait la Bible sur la jalousie. Et quand je vois les prédicateurs, j'ai l'impression qu'on dit jalousie, ah, attends, et il sort plein de versets sur la jalousie. Il dit, moi, je n'ai pas cette connaissance-là. Et c'est là que je lui ai dit, non, mais les prédicateurs, la plupart, ils trichent. Ils ont une concordance. Vous connaissez les concordances ou pas? Peut-être pas tous, c'est à la fin des Bibles. Hein. Vous avez un mot, il vous sort une dizaine de versets. Et c'est ça, avoir la mentalité du prédicateur. C'est-à-dire que quand vous avez un truc sur votre cœur, pas besoin d'une pensée du jour, pas besoin d'un enseignement, vous-même, vous allez dans votre concordance, la jalousie, ça me parle, vous prenez les 10 versets qui sont donnés et vous méditez seul. C'est que 10 versets au final, un par jour, en une semaine, allez, un peu plus, on s'est fait sa propre identité, sa propre opinion. En tout cas, là-dessus, tout est bon, mais tendons vers la mentalité du prédicateur. Amen. À terme. Voilà, support fiable pour un chrétien bien nourri, sur l'affiche. Bon, on a remis le site de Betzalel, il est bien fait, en plus. Et on arrive aux deux derniers conseils. Le conseil numéro 6, si on veut bien se nourrir de la parole de Dieu, de la Bible, je pense que c'est important de le vivre seul, mais il faut également que nous partagions ce temps avec d'autres. C'est le moment des groupes conseils, le moment que vous attendez tous à chaque fois quand je fais ma petite pub pour les groupes de maison. Et pas que. Mais c'est vrai aussi, c'est important de le vivre ensemble. Vive les groupes de maison, vive les bibliogroupes, vive le 30 minutes chrono et vive même les binômes à partager entre nous des choses. Pourquoi ça? Parce que partager la lecture, l'enseignement, l'étude de la Bible avec d'autres chrétiens permet une autre ouverture, une autre vision parfois et une aide surtout. Ici, c'est pas pour rien, Jésus lit seul, mais il le partage avec d'autres dans ce passage-là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à Nazareth, ça va faire une rébellion totale, alors que juste après, au verset 31 et 32, il le fait dans une ville voisine, la même chose, un même enseignement, et cette fois, par contre, il reçoit un avis favorable. Comme quoi, sur un même passage, on peut tous avoir des réactions et une compréhension différentes. Et c'est ça qui peut être aussi intéressant de le partager les uns avec les autres. Un, pour se nourrir les uns les autres, quelqu'un qui a bien entendu peut dire « Ah, je ne l'avais pas compris comme ça, ton passage. » Et quelqu'un qui ne l'a pas compris du tout, dire « Ah, merci, grâce à toi, je l'ai compris. » Et surtout, l'expérience et les témoignages des autres peuvent être un facteur de motivation supplémentaire. Si vous allez au petit groupe, parce que c'est fait régulièrement, qu'on vous dit « Voilà, j'ai lu tel passage, il s'est passé ça dans ma vie, il s'est mis en application, gloire à Dieu. » Qu'est-ce que vous allez vous dire, vous? Bon, la première fois, peut-être coup de chance. Deux fois, oh, sacré coup de chance. 10 fois, bah, je vais le faire aussi, parce que vous voyez, ça va vous motiver aussi à le faire. Amen. Et c'est pour ça que vous avez ce dernier passage sur cette fiche, les contacts pour un chrétien bien nourri. Où dessus, vous avez notamment, je précise, tous les prochains petits groupes, seulement la prochaine date, parce que dès le prochain petit groupe, vous allez avoir envie d'y aller, du coup, j'imagine. Dominique, qu'est-ce que t'en penses? Présenté comme ça. Merci. Le 30 minutes chrono, pareil, en plus, c'est le matin et le soir. Et puis, vous avez également quelques contacts binômes, des numéros de téléphone de personnes. Pourquoi? Parce que qui vont peut-être pouvoir vous accompagner si vous avez besoin repartir sur la lecture et qui, ce qu'on verra en tout cas après le conseil numéro 7. Parce que ce matin, j'aimerais vraiment, et je pense que le Seigneur avait sur mon cœur et sur le cœur même avec papa, que ce qu'on va vous apporter, ce ne soit pas simplement théorique, mais que ça puisse être vécu concrètement dans la pratique, ce soit donc des conseils utiles. Et je pense que ça aura un impact sur votre vie si vous vivez les réalités de la parole dans la vôtre. Et ça nous servira de bilan, de conclusion. Tant que nous ne verrons pas la parole de Dieu, la Bible, à travers notre lecture, notre nourriture, avoir un effet dans notre vie, quand nous nous en nourrissons, nous ne pourrons nous motiver à la lire. C'est aussi pour ça qu'il faut la partager à plusieurs, pour que les témoignages qui vont nous faire du bien nous donnent également envie. Comme Jésus nous y invite dans ce passage, il souhaite que celle-ci s'accomplisse dès aujourd'hui. Et du bonheur. Est-ce que toi aussi, tu veux entrer dans une année de bénédiction, comme Jésus le proposait aux personnes dans la synagogue ? Alors, on va prendre un temps où je vais prier, mais en partant, voilà, comme je vous ai dit, je veux quelque chose de très pratique. J'ai préparé, je ne l'ai pas pris là, il est là. J'ai préparé, je le mettrai sur la table là, vous êtes libre de le prendre ou pas, d'en prendre un ou deux ou pas. J'ai préparé plein de petits papiers. Un petit papier où il y a des versets dessus, des passages, deux, trois versets. Quelque chose d'assez court, un peu comme Jésus nous le montre. Je vous invite vraiment à en prendre un cette semaine. Peut-être même deux si vous avez la foi, trois si vous avez une très grande foi. Et cette semaine, à travers notamment l'affiche et à travers tout ce que j'ai pu vous partager ce matin, vous essayez de le mettre concrètement dans votre vie. Que vous ayez déjà l'habitude ou pas, on a tous des choses à apprendre. Et de prier, et je vais déjà prier pour vous là maintenant, prier pour que la semaine prochaine ou dans deux semaines, il y ait plein de personnes ici qui puissent venir témoigner que ça a eu un impact dans leur vie et que ça a changé leur vie. Amen. En tout cas, même si vous avez peur de venir ici pour le raconter, que vous puissiez le partager à d'autres à travers les petits groupes, les bibliogroupes, les 30 minutes chrono, que ça encourage d'autres personnes. Amen. Je vous invite vraiment à peut-être baisser votre tête et on va prier pour ça. Seigneur, je te loue, je te remercie parce que tu es un Dieu puissant, bon et que tu as pensé à tout. Et je veux te remercier pour cette Bible, pour ces mots, pour cette parole que tu nous donnes et qui nous permet, Seigneur, d'avoir un point de repère quotidien, Seigneur. En tout cas, c'est le désir de mon cœur et j'espère ce matin, Seigneur, c'est le désir que tu mets dans le cœur de chacun d'entre nous ici présents, Seigneur. Tu sais, Seigneur, on en est tous à des points différents. Mais je te prie vraiment, Seigneur, que nous puissions entrer dans une ère nouvelle. Dans une ère, Seigneur, où ce qui est écrit dans ta parole ne soit pas simplement des paroles en l'air, mais des paroles qui changent concrètement notre vie. Je te prie vraiment, Seigneur, et je te réclame, mais Seigneur, j'ai même pas envie de te réclamer, j'ai envie déjà de te dire merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu vas faire dans les semaines à venir, à travers ça, Père. Viens vraiment mettre du zèle dans notre cœur, viens mettre vraiment, Seigneur, du désir d'en connaître plus sur toi et notre avenant à travers tous ces mots que tu nous as laissés, Père. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Amen.